Chapitre 12e. Le testament du vieillard, écrit depuis 2 mois environ, était ainsi conçu. Mon fils bien-aimé, lorsque tu liras ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Tu m'as toujours cru pauvre, je te laisse une grande fortune accumulée par mon avarice. J'étais avare, je ne m'en défends pas, loin de là, je m'en honore, je m'en glorifie, et voici pourquoi. Jusqu'au jour de ta naissance, qui m'a ravi ta mère, j'avais, sans me montrer prodigue, été assez insoucieux d'augmenter mon patrimoine et la dot que m'avait apporté ma femme. Dès que j'ai eu un fils, ce sentiment de prévoyance, qui devient un devoir sacré lorsqu'on est père, s'est peu à peu changé chez moi en économie, puis en parcimonie, puis enfin en avarice. Du reste, les privations que je m'imposais, tu n'en souffris jamais dans ton enfance, né sain et robuste. La mâle simplicité de ton éducation a aidé, je le crois, au développement de ton excellente constitution. Lorsque tu as été en âge de recevoir l'instruction, je t'ai envoyé dans une des écoles ouvertes à la pauvreté. D'abord, c'était pour moi une économie, il n'y a pas de petites économies. Ensuite, tu devais puiser dans cette éducation commune l'habitude d'une vie modeste, laborieuse. Le succès a dépassé mon attente. Élevé avec des enfants pauvres au lieu de l'être avec des enfants riches ou aisés, tu n'as ressenti aucun de ces goûts factices, dispendieux, aucune de ces envies amères, aucune de ces jalousies vaniteuses qui influent presque toujours fatalement sur nos destinées. Je t'ai ainsi épargné beaucoup de chagrins qui, pour être enfantins, n'en sont pas moins cruels. Tu n'as pas eu à comparer ta condition à des conditions plus hautes ou plus opulentes que la tienne. Tu n'as pas éprouvé une sorte de regret haineux en entendant tel de tes camarades parler de la splendeur de l'hôtel de son père, tel autre vanter l'antique noblesse de sa race, tel autre enfin supputer les richesses dont il jouirait un jour. L'on croit généralement que, parce que des enfants de conditions très dissemblables portent le même uniforme, mangent à la même table, suivent les mêmes cours au collège, le sentiment de l'égalité existe entre eux. Erreur profonde. L'inégalité sociale est aussi bien comprise parmi les enfants qu'elle l'est dans le monde. Presque toujours, le fils d'un riche bourgeois ou d'un grand seigneur montre à 10 ans la morgue ou la hauteur qu'il déplora 15 ans plus tard. Que les enfants soient de petits hommes ou que les hommes soient de grands enfants, peu importe. Tout âge a la conscience de sa condition. Quant à toi, élevé avec des gens du peuple, tu les entendais tous parler des rudes labeurs de leur père et de leur mère. Aussi, l'indispensable nécessité du travail s'est dès ton plus jeune âge gravée dans ton esprit. D'autres de tes condisciples racontaient les privations, la misère de leur famille. Ainsi, tu t'es accoutumé à l'idée de notre pauvreté. Enfin, tu as vu le plus grand nombre de ces enfants résignés, courageux, la résignation, le courage des plus grandes vertus du peuple. Et jamais jusqu'ici, mon fils bien-aimé, la résignation, le courage ne t'ont fait défaut. À 15 ans, je t'ai fait concourir pour une bourse d'externe dans une école communale supérieure, où tu as achevé tes études. Ta première éducation avait déjà porté d'excellents fruits, car dans cette nouvelle école, bien que plusieurs de tes camarades appartinssent à l'aristocratie de naissance ou de fortune, leur contact n'a en rien altéré tes qualités précieuses, et tu ne connus jamais la jalouse envie. À 17 ans, tu es entré petit clerc chez un notaire, mon ami, qui seul a eu le secret et l'administration de ma fortune. Jusqu'à cette heure où j'écris ces lignes, la discrétion de cet ami a égalé son dévouement. La modeste carrière que tu étais appelé à parcourir ne t'inspirait pas d'éloignement. L'amitié de ton patron pour moi me répondait de sa sollicitude à ton égard. Il t'a donné des leçons de droit public, et grâce à ses soins, aux travaux dont il t'a progressivement chargé, tu as acquis près de lui une parfaite connaissance des affaires. Ainsi, grâce à ma prévision, tu vas être à même de gérer habilement, fructueusement, les biens considérables que je t'ai amassés. Ma conscience ne me reproche rien, et cependant parfois, je te l'avoue, j'ai craint que tu n'adresses à ma mémoire ce reproche. Pendant que vous entassiez des richesses, mon père, vous me voyez sans pitié souffrir de cruelles privations. Mais la réflexion chassait toujours cette crainte de mon cœur. Je me rappelais, mon cher enfant, combien de fois tu m'as dit que, bien que pauvre, ta condition te satisfaisait, et si tu désirais un peu de bien-être, c'était pour moi seul. En effet, ton inaltérable bonne humeur, ta douceur, l'égalité de ton caractère, ta gaieté naturelle, ta tendresse pour moi, m'ont toujours prouvé que ton sort te contentait. D'ailleurs, je le partageais. Ce que je gagnais, de mon côté, dans mon métier d'écrivain public, joint à tes économies, nous permettait de vivre sans toucher à mes revenus. Ainsi capitalisés, ils ont fructifié entre les mains prudentes de leurs dépositaires. Cela dure depuis près de 20 ans. Aussi aujourd'hui, jour où j'écris ce testament, la fortune que je te laisserai se montrait à près de 2,5 millions. Je ne sais combien d'années il me reste encore à vivre, mais que je vive seulement encore 10 ans, j'aurai atteint le terme moyen de l'existence humaine. Tu auras alors 35 ans, et je t'aurai amassé une fortune de 4 à 5 millions, puisqu'un capital se double en 10 ans. Ainsi, selon toute probabilité, à moins qu'un coup imprévu ne me frappe, lorsque tu entreras en possession de ces grands biens, tu atteindras ta complète maturité. Tes habitudes sobres, modestes, laborieuses, contractées depuis l'enfance, seront pour toi une seconde nature. Ton intelligence des affaires se sera encore développée par la pratique. Joint à ces avantages la rectitude de ton esprit, la forte trempe de ta constitution physique que nul excès précoce n'aura affaibli. Et maintenant, mon cher enfant, dis-moi si tu ne te trouveras dans la meilleure condition possible pour hériter de la fortune que je t'ai créée et pour en user selon tes goûts qui, je le pressens, seront aussi généreux qu'honorables. Pourquoi, te diras-tu peut-être, me suis-je borné à laisser mes fonds se capitaliser sans tenter quelque grande opération financière ou sans me donner toutes les jouissances du luxe? Pourquoi cela? Je vais te le dire, mon cher enfant. Mon avarice a eu sa source, il est vrai, dans un sentiment de prévoyance paternelle. Mais cette avarice a fini par prendre tous les caractères inhérents à cette violente passion. Or, j'ai pu, je puis encore, me priver de tout afin d'entasser richesse sur richesse, parce que je me dis avec bonheur que c'est pour toi que j'entasse et que tu hériteras un jour. Mais de mon vivant, me dessaisir de mes biens dans tel ou tel but, ou les risquer dans des opérations financières, impossible. Impossible. Ce serait me déchirer les entrailles. Car sais-tu ce qui fait de la possession de nos trésors une seconde vie pour nous autres abares? C'est que, sans dépenser, sans hasarder un denier, nous nous livrons en imagination aux opérations les plus immenses, aux magnificences les plus inouïes. Et cela n'est pas un songe creux. Non, non, de par l'état de ma caisse, ces magnificences étaient réalisables demain, aujourd'hui, sur l'heure. Comment alors veux-tu qu'un avare ait le courage ou la volonté de se dessaisir d'un pareil talisman? Comment, pour un projet, pour un seul rêve réalisé, on irait sacrifier 1000 projets, 1000 rêves toujours réalisables, surtout lorsqu'on se dit « Quel mal est-ce que je fais? À qui portais-je dommage? Mon fils jusqu'ici ne s'est-il pas trouvé heureux de son sort? Ne ferait-il pas l'orgueil des pères les plus fiers de leur enfant? N'est-ce pas après tout pour lui seul, que je thésaurise? » Et puis enfin, j'aurais agi différemment, voyons, quel bien en serait-il résulté pour mon fils et pour moi? Si j'avais été prodigue, ma prodigalité t'eût laissé dans la misère, mon pauvre cher enfant. Me serais-je borné à dépenser sagement mon revenu? Alors, au lieu de nous adonner au travail, nous serions sans doute restés oisifs. Au lieu de vivre pauvrement, nous aurions eu quelques jouissances physiques, quelques satisfactions vaniteuses. Nous eussions enfin vécu comme tous les bourgeois aisés de notre condition. À cela, qu'eussions-nous gagné? Serions-nous devenus meilleurs? Je ne sais, mais à ma mort, je ne t'aurais laissé qu'un revenu raisonnable et non suffisant à la réalisation d'aucune vaste et généreuse entreprise. Un dernier mot, mon cher enfant, pour répondre d'avance à un reproche que tu adresseras peut-être à ma mémoire. Crois-le bien, je t'ai laissé ignorer mes richesses, non par un sentiment de dissimulation ou par méfiance de moi. Voici quelles ont été mes raisons. Ignorant nos richesses, tu te résignais facilement à la pauvreté. Instruit au contraire de notre fortune, tu aurais accepté peut-être sans murmurer l'humble existence que je t'imposais, mais tu m'aurais intérieurement accusé de dureté, de bizarre égoïsme. Qui sait enfin si la certitude de ta richesse à venir n'eût pas peu à peu dénaturé tes précieuses qualités? Ce n'est pas tout. Et pardonne-moi, cher enfant, cette crainte insensée, cette appréhension si outrageante pour ton excellent cœur, mais pour jouir de ta tendresse filiale dans tout ce que son désintéressement avait de plus pur, de plus touchant, de plus sain, je n'ai pas voulu, de mon vivant, te donner l'arrière-pensée d'un opulent héritage. Une dernière raison, enfin, et peut-être la plus grave de toutes, m'a conduit à te cacher ma richesse. Je t'aime tant, vois-tu, qu'il m'eût été impossible de te voir subir la moindre privation si tu avais su qu'il dépendait de moi de te donner la vie la plus large, la plus somptueuse. Malgré l'apparente contradiction qui semble exister entre ce sentiment et ma conduite avaricieuse envers toi, j'espère, mon cher enfant, que tu comprendras ma pensée. Et maintenant, que par la pensée je me mets face à face avec la mort, qui peut me frapper demain, aujourd'hui, tout à l'heure, je déclare en ce moment suprême et solennel que je te bénis du plus profond de mon âme, cher enfant bien-aimé, toi qui ne m'as jamais donné que joie et bonheur en ce monde. Sois donc béni, Louis, mon bon et tendre fils, sois heureux selon tes mérites, et mes derniers désirs seront comblés. Ton père, A. Richard. Écrit en double à Paris le 25 février 1800 et quelques. Louis, profondément ému de la lecture de ce singulier testament, pleura longtemps, réfléchissant à la bizarrerie de son père. Le jour touchait à sa fin, lorsque le jeune héritier entendit frapper à la porte de la mansarde, et la voix bien connue de Florestan de Saint-Hérem arriva jusqu'à lui.